le journal, tout de suite, avec vous Aurélie Kiffer, bonsoir.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. D'où vient l'aggravation du déficit de la France et quelle est son ampleur? La commission des finances du Sénat a envoyé Jean-François Husson à Bercy pour réclamer des comptes, explication de Sophie Delpont. L'Observatoire international des prisons craint de voir réduite sa capacité d'intervention. L'association a perdu 67% de ses subventions publiques en 10 ans. Un sommet international à Bruxelles consacre le retour en grâce du nucléaire, perçu notamment comme un levier de décarbonation. Et puis nous reviendrons sur le sabotage des gazoducs Nord Stream en 2022. L'ambassadeur d'Ukraine à Londres est soupçonné d'être impliqué dans l'explosion, expliquera Philippe Reltien. 10 milliards d'euros de coupes actées par décret en 2024, des efforts supplémentaires à hauteur de 20 milliards en 2025. Le gouvernement a justifié ce serrage de vis par un choc économique conjoncturel. Mais le Sénat, où la droite est majoritaire, prétend ne pas s'en laisser compter à tel point que le rapporteur général de la Commission des finances, Jean-François Husson, s'est invité cet après-midi à Bercy pour demander des explications sur le déficit de la France, Sophie Delpont.
Comment le déficit public a-t-il pu autant se dégrader? Jugé sur pièce, c'est l'objectif du rapporteur général de la Commission des finances du Sénat, le sénateur Les Républicains Jean-François Husson.
Ce contrôle à Bercy m'a permis de mesurer combien le gouvernement avait tardé à réagir, et notamment au regard des alertes lancées dans les temps par les services à Bercy. Dès la fin du mois d'octobre 2023, les services de Bercy, j'utilise une formule, ont senti un coup de froid sur la croissance pour le troisième trimestre de l'année 2023. Au même moment, dès le mois d'octobre, les recettes fiscales, notamment la TVA, marquaient elles aussi le pas par rapport aux prévisions. Le gouvernement a choisi de ne pas intégrer le coup de froid dans la discussion du projet de loi de finances. Il aurait pu, il aurait dû le faire.
Un contrôle ressemblant à une perquisition après les propos tenus ce matin par le ministre délégué aux comptes publics, affirmant que le déficit serait supérieur à 5%, contrairement au niveau sur lequel le gouvernement a bâti son budget. Pour Jean-François Husson, ce flou est inacceptable.
J'estime que le gouvernement a fait de la rétention d'informations. On apprend aujourd'hui, et seulement à l'issue d'un contrôle sur place, que le déficit public pour l'année 2023 va s'établir à moins 5,6% du PIB par un contrôle sur pièce.
L'INSEE ne publiera que mardi le niveau du déficit pour l'année 2023.
Rien ne s'est passé comme prévu au Sénat. À l'initiative du groupe communiste, la Chambre haute s'est penchée sur la ratification du traité CETA de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Traité appliqué provisoirement depuis 2017, mais encore jamais soumis au Sénat avant aujourd'hui. Le suspense n'était que relatif. Une alliance gauche-droite majoritaire devait se prononcer contre cette ratification et infliger un revers au gouvernement. C'est bien ce qui a fini par arriver, Rosalie Lafarge, mais au terme d'une journée extrêmement tendue.
Tout devait être plié à la mi-journée et puis petit à petit, les débats se sont allongés. Des sénateurs se sont inscrits pour prendre eux aussi la parole, poussant le président du groupe LR à s'agacer un petit peu.
Il y a une volonté d'obstruction qui est manifeste.
Bruno Retailleau demande alors la fin des débats comme le règlement le permet. Provocation, répondent les troupes macronistes et centristes.
On a le droit de dire qu'on comprend pas.
Avec ce résumé de la situation par le sénateur et membre d'Horizon, Emmanuel Capu.
Ça part en vrille totale.
Hervé Marseille, à la tête de l'Union centriste, ironise.
Les méthodes du Parti communiste ont déteint.
Un par un, les groupes qui soutiennent le CETA quittent l'hémicycle et à 3 minutes de la fin du temps réglementaire, le texte finit par être soumis au vote de ceux qui sont restés.
Pour 243 contre 26, le Sénat a adopté.
Adopté le rejet de la ratification du CETA à la grande satisfaction des communistes à l'origine de ce coup de poker, le sénateur Fabien Gay.
Quand on est communiste et qu'on est au Sénat, il y a peu de chances de se réjouir tous les jours, donc c'est une grande victoire. Démocratique d'abord, parce qu'on a repris la main sur le gouvernement, puis c'est une victoire évidemment pour celles et ceux qui luttent contre ces traités climaticides, antisociaux et anti-environnementaux.
Victoire pour les uns, défaite donc pour les autres. Franck Riester, le ministre délégué au commerce extérieur.
C'est un mauvais coup aujourd'hui, porté à notre économie, porté à nos entreprises. Le débat n'est pas clos, le processus parlementaire n'est pas clos. Je crois que dans les semaines et les mois qui viennent, nous avons besoin d'alimenter le débat, de donner des éléments concrets pour que le moment venu, l'Assemblée nationale puisse de nouveau se prononcer sur la ratification de cet accord.
Le gouvernement ne précise pas quand, mais les députés communistes, eux, ont déjà une idée. Comme leurs collègues du Sénat, ils vont essayer d'inscrire ce traité sur leur propre temps parlementaire le 30 mai, à 10 jours des européennes.
Rosélie Lafarge au Sénat. Après une vague d'alerte à la bombe à l'automne, les espaces numériques de travail de lycées de la région parisienne ont été piratés et une cinquantaine d'établissements ont reçu des messages de menaces d'attentats terroristes accompagnés d'une vidéo de décapitation. Une réunion interministérielle sur la sécurité des établissements scolaires s'est déroulée cet après-midi sous la houlette du Premier ministre Gabriel Attal. Nous nous penchons à présent sur une décision rarissime. Une juge d'instruction de Pontoise a décidé de renvoyer en correctionnel une professeure de français pour harcèlement moral sur mineur de 15 ans. Il lui est reproché d'avoir régulièrement humilié l'une de ses élèves qui s'est suicidée à l'âge de 11 ans, Florence Durme.
Scolarisée en 6e au collège Isabelle Autissier d'Herblay dans le Val-d'Oise, Evaëlle se plaint à ses parents du comportement de sa professeure de français à son égard et par ricochet du harcèlement dont elle fait l'objet de la part d'autres élèves. Les 2 heures de vide classe organisées par l'enseignante pour évoquer le problème seront, dit-elle, la pire journée de sa vie. Au fil de l'instruction menée après le suicide de la toute jeune adolescente, les témoignages d'autres élèves viendront confirmer les humiliations qu'elle dénonçait, souligne l'avocate de la famille, Delphine Meillet.
On touche à une forme particulière de harcèlement scolaire parce que l'approche qu'on en a tous à l'origine, ce sont des faits de harcèlement entre élèves. Et il est extrêmement rare, et c'est bien la première fois qu'un professeur est renvoyé pour des faits de harcèlement scolaire à l'égard d'une élève. Moi, j'estime qu'il y avait une forme de sadisme à son égard, et les mots sont forts, mais les faits correspondent exactement à ce type de comportement. Très difficile pour cette petite fille de s'en sortir, et il se trouve qu'ensuite, elle a été entraînée dans une spirale de désespoir, où elle ne voyait pas d'issue.
La professeure de français, placée sous contrôle judiciaire avec interdiction d'enseigner à des mineurs, réfute quant à elle tout harcèlement moral ou violence psychologique. Sa mise en cause directe dans le décès tragique d'Evaëlle est totalement écartée, insiste son avocate. La juge d'instruction, pas plus que le parquet, n'ont en effet retenu l'homicide involontaire. Ils estiment en revanche que les nombreuses réflexions rabaissantes et injustifiées ont contribué à dégrader les conditions de vie de l'adolescente, contribué à la fragilisation de son psychisme, qu'elles ont également servi de catalyseur au comportement d'autres élèves vis-à-vis d'Evaëlle. 2 d'entre eux, âgés de 11 ans seulement à l'époque des faits, seront également renvoyés devant le juge des enfants pour ces mêmes faits de harcèlement.
Florence Sturm. Confrontée à des difficultés de financement, l'Observatoire international des prisons lance un appel aux dons. L'OIP joue un rôle de vigie des conditions carcérales et alerte régulièrement sur l'état de nos prisons et le respect des droits des personnes incarcérées. Bonsoir Jeanne Serrin.
Bonsoir Aurélie, bonsoir à toutes et à tous.
L'association fait face à une baisse constante des aides publiques.
Oui, ce qui crée un paradoxe. Moins de ressources, mais pour un nombre de prisonniers toujours plus important. C'est le constat inquiétant soulevé par Jean-Claude Masse, directeur de l'OIP.
L'OIP, depuis 10 ans, a perdu environ 67% de ses financements publics qui nous font passer d'environ 400 000 euros de financement public il y a une dizaine d'années à aujourd'hui 100 000 ou 130 000 euros. Alors que dans le même temps, on a une surpopulation carcérale qui ne cesse d'atteindre des nouveaux records et une France qui régulièrement est condamnée pour les conditions indignes et inhumaines de détention par des juridictions nationales et internationales, d'ailleurs saisies par l'OIP en particulier.
Le directeur s'interroge donc sur les raisons de cette baisse de subventions publiques.
On pâtit de la réduction des moyens des acteurs publics en général, qui touche l'ensemble du milieu associatif. On n'est pas les seuls. On peut supposer aussi que peut-être une association comme l'OIP dérange de par ses dénonciations et ses luttes inlassables pour alerter contre l'indignation des conditions de détention des personnes détenues et le non-respect d'un certain nombre de droits humains que peuvent rencontrer ces personnes en milieu carcéral.
Aujourd'hui, l'OIP fonctionne donc essentiellement grâce aux dons de fondations privées, mais ce n'est plus suffisant pour assurer les missions de l'association qui sont aujourd'hui portées à bout de bras par 11 salariés et des bénévoles.
On mène un travail d'accès aux droits des personnes détenues qui nous appellent via une permanence. On mène un travail d'enquête pour pouvoir informer, documenter. On mène un travail aussi en justice pour faire en sorte que les tribunaux condamnent les manquements aux droits fondamentaux des personnes détenues. Le risque pour nous, c'est de voir l'ensemble de nos missions réduites.
En 2019, l'OIP avait recueilli 200 000 euros grâce à un appel aux dons. L'Observatoire espère aujourd'hui récolter le double.
Jeanne Serrin. Leur avenir était en suspens depuis plus d'un an. Les magasins Galeries Lafayette de province vont pouvoir rester ouverts. Ces 26 enseignes étaient menacées du fait des difficultés financières de leur propriétaire, Michel Ouaillon. Bonsoir Mathilde Cario.
Bonsoir à tous.
L'entrepreneur a fait une proposition de plan de sauvegarde qui vient d'être validée par le tribunal de Bordeaux et il garde la main sur ses 26 magasins.
Oui, il est même délesté d'une partie de sa dette puisque le groupe Lafayette, à qui il a acheté les 26 magasins entre 2018 et 2021, renonce à 70% de la dette cumulée, soit environ 50 millions d'euros, et accepte que les 30% restants soient payés sous 10 ans. De son côté, Michel Ouaillon s'engage à moderniser les magasins et à intégrer de nouvelles marques pour améliorer le chiffre d'affaires. C'est donc un sursis pour le groupe Hermione Retail et pour les quelques 1000 salariés qui redoutaient la fermeture de leurs magasins. Cependant, ça n'est pas non plus une victoire franche parce que Michel Ouaillon n'inspire plus vraiment confiance. C'était aussi lui qui avait racheté Camailleux, Gosport, Gap et la Grande Récré, toutes ces enseignes à qui il promettait un nouveau souffle en 2018. Résultat, Camailleux a été liquidé il y a 2 ans et les autres cédés, notamment à Intersport et Jouy Club.
D'autant que les déboires de Michel Ouaillon ne se limitent pas à ces quelques magasins.
Oui, il a aussi quelques casseroles dans le domaine immobilier avec ce chantier d'une centaine d'appartements laissés à l'abandon à Marseille parce qu'il ne payait plus les entreprises de construction. Il y a ce scandale d'écoles privées ouvertes en 2019 dans 6 villes de France. Plusieurs campus ont fermé sans préavis l'année dernière et laissé des étudiants sans diplôme alors qu'ils avaient payé les frais de scolarité. On a aussi une affaire d'emprunt jamais remboursé à des banques étrangères pour rénover des hôtels de luxe. Bref, la liste est longue. Michel Ouaillon a fait l'objet d'une perquisition début mars et une enquête pour escroquerie en bande organisée a été confiée à la Junalco, l'instance en charge de la criminalité organisée.
Mathilde Cario. Les Français s'intéressent de plus en plus à l'intelligence artificielle. Selon le baromètre 2024 de l'esprit critique réalisé par OpinionWay pour Universcience, 60% des Français ont entendu parler de l'IA. L'intelligence artificielle existe en réalité depuis les années 1950, mais son usage a explosé avec la sortie, il y a 1 an et demi, du robot conversationnel ChatGPT. Dans quelle mesure l'IA est-elle entrée dans nos habitudes de vie, Julien Morcelli ?
On a beau en entendre parler tous les jours.
Aujourd'hui, vous nous parlez de l'intelligence artificielle.
L'intelligence artificielle.
L'intelligence artificielle ne s'inscrit pas encore dans le quotidien de tous les Français. C'est l'analyse de Michel Dubois, directeur de recherche au CNRS, membre du comité scientifique du baromètre.
Il n'y a qu'un quart de nos répondants qui ont eu un usage d'une façon ou d'une autre de l'IA générative. Quand on leur pose la question des sujets scientifiques ou technologiques qui les intéressent en priorité, c'est d'abord la santé, ensuite l'environnement. L'intelligence artificielle apparaît au 5e ou 6e rang des sujets.
Le baromètre montre toutefois un intérêt plus prononcé des jeunes pour l'intelligence artificielle. Les 18-24 ans sont 2 fois plus nombreux à l'avoir déjà utilisé par rapport au reste de la population générale.
Ce sont uniquement les jeunes générations de 18-24, 25-34 qui considèrent qu'il y aura plus de bénéfices que de risques des avancées de l'intelligence artificielle.
Michel Dubois note aussi que beaucoup de Français se tournent vers l'IA pour s'informer.
Et donc c'est là où on a un problème sans doute important pour l'avenir, parce que l'IA générative n'est pas fondée sur des logiques de vérité, mais plutôt sur des logiques d'association et de vraisemblance. Pour autant, n'importe quel expert qui connaît très bien un domaine sait très bien qu'en posant une question précise, il peut obtenir un énoncé vraisemblable, mais totalement faux. À partir du moment où l'usage dominant est un usage informationnel, comment fait-on pour faire comprendre aux utilisateurs, qui sont le plus souvent jeunes, que cet usage informationnel est un usage problématique parce que, précisément, on ne peut pas garantir la qualité de ce qui est généré par une IA.
Le baromètre montre néanmoins que les Français ont conscience des limites de l'intelligence artificielle. Les 3/4 des sondés pensent qu'elle pose des questions éthiques et juridiques et jugent sa réglementation nécessaire.
Et justement, aujourd'hui, l'Assemblée générale de l'ONU a appelé à la mise en place de normes internationales sur l'intelligence artificielle. Longtemps tabou, l'énergie nucléaire a de nouveau le vent en poupe. À Bruxelles ce matin, une réunion internationale au plus haut niveau s'est tenue à l'initiative de la Belgique et de l'AIEA. Elle a rassemblé des représentants d'une 30aine d'États européens, mais aussi chinois et américains, qui ont défendu l'importance de l'énergie nucléaire pour améliorer la sécurité énergétique de la planète. La guerre en Ukraine, qui a tari les sources énergétiques, en particulier en Europe, a contribué à ce retour en grâce du nucléaire, Angélique Bouin.
Dans leur déclaration finale, ces pays clament haut et fort leur détermination à faire du nucléaire un élément clé pour la transition énergétique, avec un engagement à mieux collaborer, à accélérer la recherche et l'innovation dans ce domaine et à lever des fonds privés et publics pour la financer, à soutenir aussi les pays qui ont récemment ajouté l'atome à leur palette énergétique. Interrogé, le Premier ministre belge, Alexander De Croo, a insisté sur la complémentarité de cette énergie avec les renouvelables.
Si on regarde les besoins d'énergie ou d'électricité dans les années à venir, On va devoir investir dans toutes les technologies. Donc je répète cela, ce sommet n'est pas un sommet qui est contre quelque chose. Si on a un élément qu'on veut éviter au maximum, c'est les fuels fossiles. Mais si on veut les diminuer rapidement, on aura besoin de toutes les autres technologies.
Avec 100 réacteurs dans 12 États européens, le nucléaire produit aujourd'hui un quart de l'énergie de l'Union. Une soixantaine de nouveaux réacteurs sont envisagés, ce qui est une folie pour les militants écologistes venus manifester. Pauline Boyer de Greenpeace France.
Chaque euro dépensé dans l'énergie nucléaire ne sera pas un euro disponible pour le développement des énergies renouvelables, le moyen le plus rapide et le moins cher de produire de l'énergie bas carbone.
À la tribune, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a déploré que cette énergie soit, dit-il, prise en otage par des approches idéologiques. Pour encourager les investissements dans cette filière, il faut convaincre d'autres pays à venir avec nous, a souligné de son côté le président Macron.
Angélique Boin, à Bruxelles, nous en venons à ce dossier de la cellule investigation de Radio France. Le 26 septembre 2022, les gazoducs Nord Stream 1 et 2 qui transportaient du gaz de la Russie à l'Allemagne étaient endommagés par 4 explosions en mer Baltique. Bonsoir Philippe Reltien.
Bonsoir Aurélie.
Dans un premier temps, c'est la Russie qui a été désignée comme principal suspect, mais les soupçons se sont ensuite orientés vers l'Ukraine et ces derniers mois, Philippe, l'enquête a progressé.
Oui, et cette enquête s'est d'abord focalisée sur un voilier appelé l'Andromeda, ancré dans le port allemand de Rostock. Parce que ce bateau, avec 6 passagers à bord, on l'a vu faire un parcours assez étrange dans la zone où ont eu lieu les explosions, comme nous l'explique notre confrère du Point, Romain Gubert.
Ce bateau, l'Andromeda, suit un drôle de parcours. C'est-à-dire qu'il part de Rostock, il va directement à Kristiansund, il ne s'arrête pas sur l'île la plus touristique, il fait les ronds dans l'eau, là, et puis il repart.
Et il retourne finalement à Rostock, Philippe.
Oui, de nuit, après une escale en Pologne, et sans que l'équipage récupère sa caution. Or, quand on creuse un peu, on se rend compte que ce bateau, il a été loué par une société dirigée par un homme d'affaires ukrainien, un certain Rustem Habibulayev, dont nous parle notre consoeur d'intelligence online, Morgan Fermalka.
Rustem Habibulayev est un homme d'affaires citoyen ukrainien qui a des affaires en Ukraine. Ce qui est peut-être moins courant, c'est d'avoir hors du pays, en l'occurrence en Pologne, 3 entreprises au moins, qui sont finalement des entreprises un peu fantômes et qui servent à faire des transactions en cas de besoin hors d'Ukraine et en toute discrétion, puisque le nom de Rustem Habibulayev n'apparaît pas dans les registres.
Ce qui peut être pratique pour louer discrètement un voilier, par exemple.
C'est effectivement la question qu'on se pose. Et cette question, Morgan Fermalka a voulu la poser directement à l'intéressé. Elle l'a donc rencontré dans une rue privée près de son domicile à Kiev, avec une autre journaliste. Et lorsqu'il est arrivé, ça s'est très mal passé.
Il se jette sur moi, il me prend le téléphone des mains et il commence à le piétiner par terre. Donc il a détruit mon téléphone. Il demande à ma collègue d'ouvrir son sac pour voir s'il n'y avait pas des enregistreurs dedans non plus. Donc on refuse. Je commence à faire la courte échelle à ma collègue qui donc grimpe par-dessus un des seuls endroits. Donc c'est une espèce de barrière en tôle un peu coupante sur le dessus qui grimpe et qui retombe de l'autre côté. Je lui lance son sac et moi je me hisse sous le coup de l'adrénaline. Je me hisse tout seul sur cette barrière en ouvrant au passage la main droite.
Et donc Philippe, comment tout ça s'est-il terminé ?
Finalement, elles réussissent à s'en tirer et on découvre ensuite que les faux passeports utilisés par l'équipage de l'Andromeda ont, eux, été fournis par Kirillo Boudanov, qui n'était autre que le patron des services secrets ukrainiens à l'époque.
Tout semble donc accuser l'Ukraine.
Oui, au point qu'à l'automne dernier, le Washington Post et le Spiegel désignent, eux, un suspect. Roman Chervinsky, un officier commando des services extérieurs ukrainiens. Un homme qui a organisé une opération qui a tourné au fiasco, comme l'explique Fidelius Schmidt, notre confrère du Spiegel.
Sa dernière opération, c'était d'essayer de corrompre des pilotes russes de rendre leurs avions aux Ukrainiens. Ils avaient trouvé un pilote dont ils étaient assez confiants que c'était un vrai pilote qui voulait se rendre en Ukraine. Mais à la fin, ce pilote n'est jamais arrivé, mais l'aéroport prévu a été bombardé par les Russes.
Aujourd'hui, Roman Chervinsky est en prison.
Oui, pour une affaire qui précède le sabotage de quelques mois, ce qui laisse penser aujourd'hui qu'il n'était pas le cerveau du sabotage des gazoducs. Difficile de confier une opération aussi délicate à quelqu'un qui vient d'échouer.
Et donc, une autre hypothèse émerge.
Oui, selon un consortium de journalistes européens, dont fait partie le site français Intelligence Online, l'opération aurait été mise au point par Valéry Zaloujny, l'ancien chef d'état-major des armées ukrainien, qui a été limogé le 8 février dernier et qui vient d'être nommé ambassadeur à Londres. Quant à savoir si elle a été ordonnée par le président Volodymyr Zelensky lui-même, on n'aura sans doute jamais la réponse, estime mon confrère spécialiste du renseignement au Washington Post, Shane Harris.
Les spécialistes du renseignement à qui j'ai parlé sont d'accord. Ils disent, bien sûr, ce n'est pas le président Zelensky qui a autorisé ou ordonné cette opération. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle n'a pas été conduite par des militaires. Et ce que notre source nous a dit dessine plutôt une opération menée par des militaires sans instruction explicite du président Zelensky. Cela permet au président Zelensky de nier qu'il a joué un rôle là-dedans.
Oui, et je précise que les intéressés dément toute implication dans le sabotage. En attendant, seule l'enquête judiciaire allemande se poursuit.
Merci Philippe Rétien. On termine avec cette première mondiale aux États-Unis. Des chirurgiens ont transplanté le rein d'un porc génétiquement modifié sur un patient souffrant d'insuffisance rénale chronique. Cet homme âgé de 62 ans se remet bien de l'opération, indique l'hôpital général du Massachusetts à Boston, estimant que cette opération marque une étape majeure dans la quête d'organes accessibles aux patients, sachant que le rein est l'organe le plus demandé. Météo France prévoit demain une belle journée printanière avant une nouvelle dégradation par le nord-ouest. Les températures restent très douces, entre 4 et 15 degrés au petit matin, 13 à 20 l'après-midi sur la moitié nord, 20 à 27 au sud. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.